Nos rivières ont besoin d'être protégées. Mais comment y parvenir si on les oublie ? Les humains vivent parfois au bord des cours d'eau sans même y penser. Ils puisent leurs eaux sans les regarder. Pour retisser les liens entre nos rivières et nous, l'association Eaux et Rivières de Bretagne et la région Bretagne ont lancé en 2021 l'Atlas socioculturel du Belon. D'autres ont suivi, le Lapic, le Léguerre, les Marais de Vilaine et la Rade de l'Orient avec le Scorff, le Blavet et le Terre. Ce sont ces démarches que vous propose de découvrir ce podcast.
On part pour cette première émission sur le Léguerre. On part à la rencontre de ce poisson complètement mythique. C'est le saumon. On a peu d'évocations du saumon dans la toponymie bretonne, par exemple, très peu même, hormis Ports-en-Éogue. Éogue, c'est le saumon. Ports-en-Éogue, c'est à l'île de Bréhat. Mais sur le Léguerre, il n'y a pas grand-chose. Pourtant, ce poisson fait encore beaucoup rêver. Et les approches sont très différentes concernant cet animal. Une petite approche, peut-être pour commencer, une petite approche musicale. Louis-Jacques Sugnard habite à Cavan. Quand on est à Cavan, on n'est pas très loin du Léguerre. Et il a écrit cette chanson qui s'appelle « Bro en éogue », le pays du saumon.
Daos para zo da wele da mango Nga mai o bien e furka namza E kember an orinyu Amai mini a mihi a yara gavi onu e nozi Na mai o bien, na mai o bien.
À Belle-Île-en-Terre, Jean-Yves, lui aussi, a été fasciné enfant par le saumon. Mais il a opéré une mue. Il est passé de pêcheur à amoureux du vivant. Et on lui demande comment il parle du saumon à ses petits-enfants.
Parler à nos petits-enfants du saumon, il y a une certaine complexité. Parce que si on parle avec l'œil du pêcheur, avec l'œil du naturaliste ou avec l'œil de l'amoureux en fait du vivant. Et moi je suis, je me mets plutôt dans le dernier, dans la dernière case, c'est amoureux du vivant parce que c'est vrai que j'ai été pêcheur, mais plus pêcheur en fait pour, malheureusement, appréhender de très près en fait ce poisson. Qui était mythique en fait pour un pêcheur. Imaginez un jeune pêcheur d'une dizaine d'années attraper un saumon. Mais alors, c'était le Graal quoi. Hein? C'était la conquête de la Toison d'or. Et en fait à cette époque-là, le saumon n'arrivait pas à Belle-Île parce qu'il y avait le barrage de Canonskia qui l'empêchait de remonter. Mais bon, on entendait à Belle-Île les histoires de saumon. Après, il y avait toutes les histoires de saumon. Il y avait les Anglais qui venaient. Avant qu'il y ait le barrage de Carnoustiac, qui venaient pêcher jusqu'à Belle-Île le saumon. Quoi. Donc, sur tout le Léguerre, les riches Anglais venaient fréquenter le Léguerre pour le saumon. Donc, on avait toute cette historique, toute cette histoire-là qui en faisait un poisson encore plus. D'autant plus qu'il n'était pas à Belle-Île. Et ça, nous, on aurait bien voulu qu'il vienne à Belle-Île, hein, puisque quand on a 12, 13 ans ou 14 ans, descendre à Canonskillac, ça faisait loin. Enfin, ça faisait que 3-4 kilomètres. Hein. Mais c'était tellement loin pour nous que l'amont de Kandinskiek, qui était constitué à l'époque par le barrage de Kandinskiek, nous, on avait appelé ça le Canada. Vous voyez un peu tout ce qu'on y mettait, nous. L'animal emblématique du Légler, c'est sans doute le saumon, parce que c'est lui qui m'a donné à un moment une leçon, en fait, une leçon de résilience et de courage. Parce que le barrage de Kandinskiek, qui en fait coupait la rivière en deux, et il empêchait la remontée des poissons, surtout de la zone amont du Légler. En fait, la rivière était... Il y avait 25 km de rivière qui était accessible au saumon, et les 50 km au-dessus du barrage de Kandinskiek n'étaient plus accessibles au saumon. Et alors effectivement, le challenge à cette époque-là, puisque on avait aussi monté une association de défense de la vallée du Léger, etc. Enfin, tout ça, c'est une longue histoire. Et le challenge à ce niveau-là, c'était... Eh bien, ce barrage-là, il était quand même gênant, quoi. Hein. D'autant plus que si on regarde une rivière, une rivière à l'origine, c'est fait pour couler. Donc, à chaque fois qu'on met sur cette rivière un barrage, c'est-à-dire on contrarie en fait le sens naturel de la rivière, la logique naturelle. C'est comme si on transformait une prairie avec toute sa faune et sa flore en terrain de foot ou en gazon de golf. C'est exactement la même chose. Donc, ce barrage-là, il avait, même si pour un moment, ça a été pour les enfants que nous étions à une certaine époque, ça a été pour nous le Canada, ce barrage-là, il avait quand même de forts impacts sur la rivière. À tous les niveaux, hein, au niveau qualité d'eau, etc. On ne va pas s'étendre là-dessus, mais ça en a fait partie aussi, ça fait partie de son histoire aussi. Donc, le challenge, c'était que le barrage soit effacé. Bon, ce qui s'est produit, effectivement, le barrage a été effacé. Et l'année où il a été effacé, c'était presque comme un cadeau pour moi. J'ai vu à Belle-Île les premiers saumons frayés. Vous imaginez? Voir des saumons frayés, c'était accessible qu'à une minorité d'individus. Et voir ça à Belle-Île-en-Terre, ma ville natale, quoi, hein, et avec voir ça à Belle-Île-en-Terre, c'était un grand cadeau, et puis aussi une grande leçon, parce que ça montrait que si on faisait quelque chose pour le vivant, eh ben, le vivant tout de suite revenait.
Et puis, sans le péché, mais avec toujours autant de fièvre, Samuel Jouon, lui, c'est dans son objectif qu'il traque ce saumon emblématique de la rivière du Léger. On part avec lui quelque part sur le Léger. On est sur un déversoir, les pieds dans l'eau, au mois de novembre, à attendre le fameux saut de la bête. Alors, est-ce qu'on peut dire à quelle période de l'année on est, Samuel Jouon? Parce qu'on n'a pas le droit de dire où on est, mais on peut peut-être dire à peu près quand. Les saumons
donc on est
essayent de remonter le Léger.
Oui, alors les saumons rentrent un peu en rivière un petit peu toute l'année. Les saumons de printemps, plutôt au printemps. Les castillons, les plus petits, après en été, automne. Mais là, on arrive à fin novembre, peu de temps avant qu'ils regagnent leur zone de frayère. Et ils profitent des coups d'eau en fait pour remonter en fait et franchir les obstacles. Donc c'est un peu la dernière course vers les zones de frayère.
Les coups d'eau, c'est les grosses pluies.
C'est ça. L'idéal, c'est pour les photos comme je peux faire, c'est le bon coup d'eau en fait, la pluie pendant la nuit. Et puis le lendemain, un peu de soleil pour avoir la belle lumière en fait et voir les poissons sauter.
sauter, sauter.
Donc là, il y a effectivement un poisson qui a sauté. On n'a pas bien vu si c'est un... Je pense que c'est un petit saumon. Ça peut être une truite de mer, dans cette taille-là aussi. En tout cas, c'était pas une petite truite Fario.
C'est tout près de nous.
Donc voilà. Alors on essaye pour la photo. J'essaye d'identifier en fait des veines d'eau, des courants préférentiels en fait que le saumon, puisque le saumon il est attiré par le courant. Et de positionner en fait l'appareil photo et faire la mise au point sur cette veine d'eau préférentielle. Donc là une truite. Ouais, donc là c'est une toute petite truite. Et pour essayer de faire de trouver en fait l'endroit où faire la mise au point, parce que je fais toujours la mise au point manuelle. Et en faisant la mise au point sur un endroit où en fait où on pense que préférentiellement le poisson il va sauter, en fait c'est à ce moment-là qu'on essaie de déclencher. Mais ça marche pas à tous les coups parce que les poissons en fait peuvent tenter de sauter en fait à différents endroits. Donc c'est aussi beaucoup de photos ratées. Et là on a un gros qui vient d'essayer de sauter un tout petit peu plus loin.
Ah j'ai pas vu.
Donc là c'est un gros saumon. Juste au niveau de la petite branche là, qui fait...
Donc il faut rester à regarder là-bas.
Là, il a sauté là-bas, mais tout à l'heure, il a peut-être sauté plus près. Bon, voilà, on voit quand même qu'il y a encore un peu de poisson. Il y a un petit peu d'activité, c'est pas la folie. Mais voilà, si on reste un certain temps, en fait, on va en voir quelques-uns sauter. Et dans l'eau, en fait, il y a quelques gros poissons. Je me précipite pas parce que j'ai pas encore les conditions de lumière. En fait, sur ce déversoir là, en fait, je sais que la lumière, en fait, alors déjà il y a surveillance du débit, des conditions météo. Le jour où il y a un peu de soleil, malgré un débit important, et en fonction des endroits, en fait, je repère en fait les heures de la journée sur lesquelles en fait le déversoir il va plutôt être éclairé. Et là ici, en fait, c'est entre midi et demi et 14h que je vais avoir les conditions de lumière en fait qui pour moi sont les meilleures, et c'est à ce moment là en fait que j'installe mon matériel. Donc c'est parfois c'est quelques heures dans l'année, voire pas du tout. Donc là si les nuages se dissipent et qu'on a le rayon de soleil là tout à l'heure, on sera dans ces conditions là. Je filme un peu pour faire des gros ralentis. T'as beaucoup d'images secondes, hein. Et comme ça permet de faire quand ça saute pas beaucoup en fait, parce que quand ça saute en fait il faut rester le doigt sur l'objectif, ça peut être très long, ça on tétanise un peu. Donc en attendant en fait je fais aussi des petites séquences vidéo en fait pour des beaux ralentis de saut. Et il y a quand même un peu de poisson, et je me dis que là le débit qui redescend un petit peu, en fait, ça peut être pas mal là dans une demi-heure, une heure, ça peut être très bon. On en a vu quand même un peu.
Ouais, on en a vu, ouais. Kenavo.
Kenavo.
Une prochaine, et ouais. Puis comment on appelle ça? Ici, on est sur un bon spot pour une.
Ouais.
C'est quoi? C'est un hobby? C'est plus qu'un hobby. Hein.
Ouais, c'est une passion en fait. Ouais, c'est un rendez-vous en fait avec la rivière que j'ai chaque année cette période-là.
Kenavo.
C'était Rives et Récits, une série de podcasts proposée par les radios de la Corlab, la coordination des radios locales et associatives de Bretagne, en partenariat avec Eaux et Rivières de Bretagne, l'Office français de la biodiversité et la région Bretagne.